Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour 2h d'infos, le 10h midi de Sud Radio. Avec vous, entre 10h et 11h, Rémi Pernelet, Gilles Ganzmann, bonjour.
Bonjour Valérie.
Vous êtes là pour parler médias. Aujourd'hui l'événement, c'est Capitaine Marlowe inédit avec Isabelle Adjani.
On a Isabelle Adjani ?
Non, on n'aura pas Isabelle Adjani, mais on aura José Dayan qui est la grande prêtresse.
Et qui va nous parler d'Isabelle Adjani,
absolument, dans ce rôle où elle est tout à fait étonnante. Capitaine Marlowe inédit ce soir. Dites-nous si vous allez regarder, si vous aimez Capitaine Marlowe. On en parlera avec vous. On va parler d'un documentaire bouleversant, étonnant, choc sur les goulags. Ce sera Michael Prazan, le réalisateur, qui sera avec nous. Et puis entre 11h et midi, on va revenir sur l'actualité. Le réquisitoire assez sévère du procureur de la République à l'encontre de Bernard Tapie. On parlera de ce qui se passe dans les EHPAD. Vous pouvez nous appeler également pour témoigner. Bref, bien d'autres sujets encore. Et on commence avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Alors, découvrons les audiences, Rémi, on commence avec le carton
hier soir, bah, c'est pour TF1, ouais, 5 676 000 téléspectateurs et 24% de part de marché. C'était la fin de la saison 2 des Bracelets Rouges, 700 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. Bon, un vrai carton pour le final de cette excellente série qui va, rassurez-vous, tourner une saison 3, ça va démarrer mi-juin, ce sera sans doute diffusé.
Je ne sais pas comment ils vont faire parce que là, ils sont un peu au bout de leurs histoires à l'hôpital.
Il y a une saison 3 en Espagne qui est déjà. Donc je pense qu'ils vont se caler sur le scénario espagnol.
Le tournage est prévu. TF1 largement leader hier devant M6, 2 320 000 téléspectateurs et 10,6% de part de marché pour Marié au premier regard. Marié au premier regard, bon, évidemment 3 700 000 de moins que la semaine dernière, mais la semaine dernière c'était le match de foot de l'équipe de France. Donc en fait, voilà, TF1, M6, on a gagné, on a tous gagné pour les pronostics, mais en fait non.
Pourquoi non ?
Parce qu'il y a une seule gagnante, Valérie, parce que c'est votre anniversaire.
Ah non, c'était vous.
Oui, bon anniversaire.
Merci. Voilà, comme ça, tout le monde le sait.
Bah oui.
C'était entre nous.
Non, c'est un événement.
Alors, c'est moi qui ai gagné aujourd'hui.
Exactement.
Voilà. Quel a été le score ? Alors,
je rajoute un petit carton aussi pour Quotidien. 1 753 000 téléspectateurs pour Yann Barthès, qui recevait Jérôme Commander et Mathieu Bloch côté. Un gros score pour Quotidien.
Alors, Jérôme Commander, moi, j'ai vu, était très drôle.
Oui.
Mais Mathieu Bloch côté, il était incompréhensible. Il parlait à une vie. Vitesse incroyable.
Mais il y a quand même 1 753 000 personnes qui l'ont regardé.
J'avais envie de voir le score, donc voilà.
Bon score aussi pour Touche pas à mon poste sur C8. 1 468 000 téléspectateurs pour Cyril Hanouna. Lui, il recevait Julia Vignali. Et puis C'est à vous reste à peu près dans son score à 1 216 000 téléspectateurs.
Alors, est-ce qu'il y a un gadin ?
Bah oui, un gadin, c'est pour France 2. Seulement 1 857 000 téléspectateurs et 7,8% de part de marché pour la série policière islandaise Trapped. C'est 300 000 de moins que la semaine dernière, c'était le lancement. La série n'accroche absolument pas le public. D'ailleurs, France 2 l'a compris. Il la passe en deuxième partie de soirée à partir du 15 avril.
La surprise.
Le très bon score de TMC. 1 448 000 téléspectateurs pour le film américain Independence Day.
Très bon score.
TMC était quatrième chaîne généraliste hier. Puis bon score aussi pour C8 et W9, aussi avec des films américains. 1 300 000 pratiquement pour C8 avec l'agence Tourisque. Ouais. 1 200 000 pour W9 avec Évasion. Le film avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, c'est des valeurs sûres qui fonctionnent.
Très bien, un bon petit tour des audiences. On va vous écouter. Vous, qu'avez-vous regardé à la télévision hier soir? 0826 300 300. On a Annie en ligne avec nous. Bonjour Annie.
Oui, bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous avez regardé hier soir?
Alors, j'ai regardé la 3, Des Racines et des Ailes.
D'accord.
J'ai regardé, j'ai trouvé que l'émission était... J'adore l'animatrice.
Fanny Agostini.
C'est Fanny Agostini, qui sera avec vous la semaine prochaine.
Vous avez... qu'est-ce qui vous a plu dans cette émission?
Alors, j'ai regardé la première partie, je vais être honnête avec vous, parce que j'ai pas pu tenir, en fait.
C'est tard. Crevée
par le changement d'horaire et la journée de travail. J'ai regardé donc la première partie, la préparation de la fête au Sri Lanka. Le voyage en train de l'animatrice. Et j'ai adoré l'émission. Alors, j'ai enregistré la seconde partie, parce que je ne pouvais vraiment pas aller jusqu'au bout. Mais j'adore l'animation. J'ai beaucoup aimé.
Vous aimez la manière dont elle présente Fanny Agostini. Ouais. Bah, elle est vraiment, elle est dans son élément. Hein. C'est vraiment.
Ah oui. Puis elle a une empathie. On sent une générosité chez elle. Hein.
Ouais. Merci, merci Annie. On a en ligne avec nous Fatima. Fatima, vous avez regardé Marié au premier regard.
Happy birthday.
Oh, vous êtes formidable. Merci Fatima, merci à vous.
Oui,
on ne peut pas garder un secret hein, dans cette radio.
Maintenant, vous allez être, je pense, taclé toute la matinée.
Absolument.
On s'est 22 ans.
Voilà.
Ouais, c'est bien.
Merci,
bien.
Merci à vous Fatima, c'est super gentil. Alors oui. vous avez regardé quoi hier?
Marié au premier regard, parce que c'est une émission que j'adore.
Ah.
Et en fin de compte, on s'aperçoit que la science n'est pas si effective sur le mariage.
Oui.
Il y a des couples qui marchent, puis d'autres non, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette émission qui est très pertinente. En fait.
Vous y croyez?
J'y crois parce qu'il y a quand même quelques couples qui se forment. Et après,
il faut savoir s'il dure.
Oui, s'il dure, c'est ça.
Il y en a un qui dure au moins depuis 2 ans, là, qui a eu un enfant. Et j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup après.
Vous avez vu que Maxime et Sonia, ils sont passés à l'acte. Hein. Ça y est, c'est parti.
Exact.
Ça, ça vous fait plaisir ou pas? Parce qu'elle y va, la Sonia.
Elle a eu de mal, oui. Et puis après, je voulais vous dire aussi que Capitaine Marlowe, j'adore et j'adhère.
Oui, vous allez la regarder ce soir.
Avec Isabelle Adjani.
J'en loupe pas un.
Vous en loupez pas un, oui.
Je trouve qu'elle a une façon de faire, une façon d'être. C'est super, quoi. Ça vous met du baume au cœur.
Bon, bah tant mieux. Merci Fatima. Merci de votre message. Et ben c'est gentil. Je vous embrasse. Merci à vous. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias. L'instant zapping.
Bon, bah vous connaissez le jour qui est la veille de votre anniversaire, Valérie, c'est le 1er avril. 1er avril, une vieille tradition qui a teinté toutes les émissions de notre audiovisuel français. Ça a commencé sur CNews, où je ne sais pas si vous avez vu cette séquence où Pascal Pro a tenté de piéger Jacques Séguéla.
Est-ce que vous avez été donné Jacques Séguéla par cette information du matin, Nicolas Sarkozy, président du Paris Saint-Germain?
Hein, c'est une blague ou...
Ah non,
c'est un poisson d'avril. Ah,
attendez, je pense que...
Président du PSG, c'est tombé ce matin à 8h52.
Mais c'est vrai ou c'est pas vrai?
Poisson d'avril, Jacques!
Poisson d'avril!
Bon, Jacques Séguéla, il a cru à moitié Nicolas Sarkozy, PDG du PSG.
Président du CPSG.
Autre poisson d'avril.
On en a parlé avant le 1er avril.
Oui, hein, c'est cette hypothèse. Autre poisson d'avril qui a fait énormément parler de lui, c'est Cyril Hanouna qui s'est installé dans le fauteuil et le décor de son ennemi Yann Barthès du Quotidien sur TMC. Petite imitation, donc en début de TPMP, qui avait donc des couleurs de Quotidien.
Nous sommes le lundi 1er avril et c'est Touche pas à mon quotidien. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on recevra le petit virtuose de la flûte électronique, Michel Stroganov, qui sera avec nous dans un instant. Michel qui a fait un carton en Hongrie. C'est la révélation, vous le savez, hongroise de flûte électronique. D'ailleurs, c'est un instrument qui a fait parler de lui. Hein. Vous avez entendu ou pas parler de la flûte électrique?
Bien sûr.
Ouh. On fera également du Brexit pour la 35e semaine et nos chroniqueurs stagiaires, bien sûr, sont allés enquêter sur le très controversé Brian Felous, qui vient de sortir son livre « Mon régime sans viande, sans poisson, sans légumes et sans eau. Bref, je mange des pierres et je suis bien dans ma peau. » On l'aura tout à l'heure avec nous, bien entendu.
Ben voilà. Hein,
bah du coup, ça a marché un peu mieux, vous voyez,
nos journalistes stagiaires. Vous avez vu, il en a profité pour tacler. Et puis, il y a un dernier poisson d'avril. Il y avait Michel hier, qui est venu chanter dans l'émission de Nagui sur France 2. En fait, Michel, c'était une star de la chanson grimée à la façon de Patrick Sébastien. Il en a fait une star qui chante... Enfin, cette star a chanté « Il y a de la joie », d'après vous. Qui chantait ?«
Il y a de la joie, toujours bonjour les hirondelles, il y a de la joie. »
Il y a un petit air de Marc Lavoine, non?
Ouais, c'est Marc Lavoine.
Voilà. J'adore Marc Lavoine.
Qui est venu faire une surprise un 1er avril. Et donc, il était vraiment grimé à la façon de Patrick Sébastien. Vous aimez Patrick Sébastien, Valérie?
Beaucoup.
Il a un message pour vous.
Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Pour que t'aies tout bon pour l'année entière.
Voilà, c'est la totale ce matin.
Ah, vous avez vu comment je voulais placer.
C'est formidable, voilà.
Formidable. On est à deux doigts de sortir des cotillons.
Oui.
TPMP est revenu sur l'affaire Quesada, donc sur C8. Ouais. Il recevait Julia Vignali pour sa nouvelle émission et qui a confirmé ce dont on parlait hier ensemble. Évidemment, on ne vérifie pas le casier des candidats.
Je lui fais un énorme bisou à Jean-Luc. On sait que c'est un type formidable. Voilà, et on le soutient à fond dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve difficile pour lui. Et je vous jure, il est énormément touché, Jean-Luc Reichmann. Julia, vous avez suivi cette affaire, c'est oui. complètement fou. Hein.
C'est complètement fou, et sûrement que ça va faire, vous disiez, jurisprudence, et que les productions vont maintenant se poser la question de qui ils embauchent, entre guillemets, même s'ils n'étaient pas payés. Mais il faut sûrement regarder le passé des gens. Moi, je sais que, par exemple, sur les émissions que je présente, on regarde pas le casier judiciaire, mais on a des psychologues, quand même, qui checkent, a priori. Mais ça veut pas dire que, sûrement, que tout est... peut-être nickel, mais ça fait peur parce que quand je me mets à la place de Jean-Luc Reichmann, je me dis qu'il doit se sentir extrêmement coupable alors qu'il n'y est pour rien. Parce que quand vous portez une émission et qu'il y a des drames comme ça qui se passent, vous vous dites certainement pourquoi j'ai pas vu ça. Moi qui l'ai fréquenté.
C'est ça. Et Jean-Luc, il n'a pas du tout à culpabiliser Jean-Luc. Il a fait son boulot. Il a été sympathique comme il est avec tout le monde. Et forcément, il pouvait pas savoir. Et c'est normal qu'il ait été sympathique avec Christian. Il sait pas son rôle.
C'est pas ce que dit Patrice Lafont.
Hein, ouais, absolument. Mais voilà. Je pense qu'on va encore avoir d'autres informations. Je pense que c'est l'affaire du mois. Mmh. Et pour finir, alors ce témoignage glaçant, c'était hier dans C'est à vous sur France 5. Sur le plateau, l'écrivain et auteur de Gomorra, vous savez, cette série sur la mafia, c'était Roberto Saviano, qui est venu parler de son nouveau livre. Alors, il est terrifiant. Il raconte comment des enfants de 10 ans à 17 ans, ont pris le contrôle, en fait, du groupe mafieux à Naples.
Pendant 5 ans, ces enfants ont profité du vide de pouvoir et ils ont commencé à grimper dans le pouvoir. Il faut imaginer quelqu'un qui a 15 ans qui gagne 1 million d'euros en 3 mois. C'est incroyable. Et ces jeunes y sont arrivés. Ils avaient une certaine forme de génie, malheureusement qui était orienté vers le mal, mais ils ont réussi à construire une structure très puissante qui, à travers le trafic de drogue, contrôlait la ville. Et ils dormaient chez leurs parents. Hein. Ils allaient à l'école.
Et le soir, ils allaient faire leur devenir la mafia. Ils se réunissaient après avoir été à l'école et avoir dîné chez leurs parents. C'est juste un témoignage.
Déjà,
étonnant.
C'est pour son premier livre, Gomorra, était absolument saisissant. D'ailleurs, il a été adapté. Puis après, c'est autre chose. Mais il faut savoir qu'il vit quand même sous protection policière permanente. C'est une vie absolument infernale parce que la mafia s'arrête jamais.
A mis sa tête à prix.
Oui, absolument.
Cantu nous dit, les bracelets rouges, je n'avais jamais vu une série d'une justesse comme cela, proche de nous, citoyens lambda et des jeunes. Et oui, aujourd'hui, nous avons besoin de gens lambda à la télé. Ça, vous l'avez-vous compris, messieurs, dames, des médias? Oui, il en faut pour tous les goûts et rêver aussi, mais cette série est déjà culte et c'est tant mieux. Oui, on en a parlé, on a reçu les jeunes comédiens.
On en a toujours dit beaucoup de bien, parce que c'est une série extrêmement forte.
On a reçu la scénariste, même.
Ils jouent formidablement bien, ces jeunes. Hein, c'est vraiment une série qui est formidable, qui mérite le succès qu'il remporte et on a hâte de voir la saison 3. Et hier, on a appris qu'il y aurait saison 3 également à Casa des Papel.
Je ne pouvais pas vous le passer.
Dépêchez-vous de regarder la saison 2 si vous ne l'avez pas vue. Si vous lisez les informations
sur la saison 3,
il y a quelques éléments. Mais voilà, on est très contents de voir que la saison va revenir normalement au mois de juillet, c'est ça ?
Vous avez vu cette bande-annonce ? Non, je n'ai pas vu. Ils sont au soleil.
Mais ne dites pas, il y a des gens qui n'ont pas vu, peut-être. Si vous n'avez pas vu Casa des Papel,
il faut regarder.
La saison 3 arrive, donc on est très contents.
Mais même, c'est déjà une information.
Déjà une information en soi. Allez, on se retrouve dans un instant avec José Dayan pour parler de Capitaine Marlowe, le carton de Capitaine Marlowe, la série phare de France 3, avec ce soir Isabelle Adjani face au Capitaine Marlowe. Ça promet. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, les médias.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est José Dayan. Bonjour José Dayan, merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir entre deux tournages. Ça fait longtemps qu'on avait envie de vous recevoir dans ce studio. Vous êtes, vous êtes une réalisatrice infatigable, intarissable, de grands, grands talents. Vous avez réalisé entre autres Les Misérables, Le Comte de Monte Cristo. Vous avez tourné avec les plus grands acteurs, Depardieu, Jeanne Moreau. Enfin, on ne va pas tous les citer. Et puis, c'est vous qui avez initié, créé cette série du Capitaine Marlowe.
Oui. Oui, ouais. Mais d'abord, merci de me recevoir.
Bah non, on est content, parce que Capitaine Marlowe, c'est quand même le succès aujourd'hui en fiction. C'est un des plus gros succès, on va y revenir avec Rémi, de la télévision.
Ouais, pourvu que ça dure, voilà.
Ah bah, ça fait un petit moment quand même, non ? 2015,
ouais. Voilà, ouais. Écoutez, oui, Capitaine Marlowe, en fait, c'est venu de mon désir de retrouver Corinne Maziero, parce que j'avais tourné avec elle dans la série des Vargas. Ouais. Et elle interprétait Violette Rotencourt. Et j'avais trouvé que c'était une actrice très particulière.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Et j'avais envie de développer quelque chose autour d'elle. Et voilà comment est né le Capitaine Marlowe, oui.
C'est très gonflé quand même. De votre part et de la part de France 3, parce que oui, c'est un personnage tellement atypique.
De ma part, c'est pas gonflé.
Non, parce que vous êtes gonflé.
Voilà, c'est ça. Moi, j'y croyais, donc c'est pas gonflé, si vous voulez. En revanche, de la part d'un Holmes sur France 3, c'était gonflé, en effet. Mais je lui avais dit, écoutez, on va... L'ADN de Marlowe, on va décider qu'elle est toujours face à un très très grand acteur ou une très grande actrice. On va demander par exemple pour le pilote qu'elle soit face à Gérard Depardieu. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est comme ça, si vous voulez, que Marlowe est né. Et maintenant, c'est vrai que compte tenu de nos audiences, etc., on pourrait continuer de faire Marlowe en mettant la barre peut-être un peu moins haut.
Voilà, mais C'est lui qu'on va voir ce soir.
Là, c'est très haut ce soir, Isabelle Adjani, quand même.
Oui, c'est
Mademoiselle Isabelle Adjani.
C'est la plus haute barre. Mais on va revenir sur...
Elle avait déjà fait de la télé, Isabelle Adjani ?
Je crois qu'il y a des années. Ah bah, oui. Mais on va revenir sur Isabelle, parce que ça...
Elle est formidable ce soir. Donc, c'est ce soir un inédit du Capitaine Marlowe qui sera diffusé sur France 3 à 21h, où elle est bouleversante, elle est étonnante, elle est assez incroyable. Le titre, c'est « Ne plus mourir jamais ». Alors, Corinne Maziero, Isabelle Adjani, Thibault de Montalembert, qu'on a vu dans la série qui est formidable.
Bien sûr.
Il est incroyable. Rémi, vous vouliez peut-être faire un petit point audience avant.
Alors, parce un que petit c'est quand point, même... c'est compliqué parce que c'est tellement. Il y a tellement de fortes audiences. Non, mais simplement pour dire que les dernières audiences dépassent les 7 millions. Alors, de toute façon, on est au-dessus de 6,5 millions. Donc, l'année dernière, en avril, 7 millions 240 000. Au mois d'octobre, à la rentrée, 6 millions 610 000, en octobre également 6 millions 410 000, donc on est entre 6,5 millions et 7 millions. Ce sont des audiences, bah c'est les audiences records de France 3, hein, de toute façon.
Oui, mais même
et,
de la télévision,
et, aujourd'hui. Et, voilà. Aujourd'hui,
et oui, parfois, à part les enfoirés, si vous voulez, c'est la deuxième audience de la télévision française.
Voilà, oui. Et puis là, il n'y a pas les replays, parce qu'on a beaucoup de replays. Ouais. Et ce qui est très étrange, c'est qu'on a plus d'audience sur les rediffusions qu'à la première diffusion.
Ah oui, ça c'est...
Vous voyez, c'est drôle, oui.
Pour revenir à ce soir,
à
donc Isabelle Adjani... Oui, non mais dites-nous, comment vous l'avez convaincue,
Alors Isabelle, on se connaît depuis 25 ans à peu près, et on a toujours eu des rapports d'amitié très sincères et très existants, mais à la fois, on ne se voyait pas beaucoup, parce qu'elle était dans ses aventures filmiques, moi dans les miennes, et puis j'avais envie de tourner avec elle, et je l'ai appelée, on s'est rencontrés, on s'est retrouvés avec plaisir, et voilà, je lui ai proposé d'être dans un Marlowe, elle m'a dit on va voir, je ne sais pas, etc. Bon bref, et puis je savais qu'elle avait eu le désir de faire il y a quelques années un livre de Marc Eisenstetter qui s'intitulait « Ne plus mourir jamais ». Et je lui ai dit « Isabelle, j'ai les droits de ne plus mourir jamais ». Me dit non, mais attends, c'est pas vrai, c'est moi qui les ai. D'accord, alors est-ce que tu veux qu'on fasse un Marlowe ? Elle m'a dit d'accord. et on a fait ce Marlowe. Et c'est vrai qu'elle est, elle est rare, elle est exceptionnelle, parce que ce personnage est très difficile. Elle s'est mise à nu, elle a reculé de devant rien, et à la fois la construction au niveau de l'émotion et sa rencontre avec Maziro, c'est vraiment très intéressant. Son couple avec Thibault de Montalembert aussi. Oui. Moi, je suis très très heureuse de ce film, et surtout très heureuse qu'Isabelle soit venue. Et d'ailleurs, moi, je touche du bois parce que je suis superstitieuse, mais je viendrai vous annoncer d'autres projets avec Isabelle.
Bon, bah, vous ne voulez pas le dire avant, on l'a compris, Rémi.
Non, c'était pour dire qu'effectivement, le fait qu'Isabelle Adjani accepte ce rôle, au départ, au début, bah, c'est quand même, faut dire, c'est un personnage qui sort de 15 ans de coma, qui au départ peut à peine parler, ne peut pas vraiment marcher. Et donc on voit l'évolution de ce personnage, on ne va pas raconter parce que bien sûr.
Non, mais c'est formidable mais justement la construction qu'elle a réussi à faire.
Et d'accepter pour quelqu'un si comme elle d'avoir cette image au départ assez différente.
Ah oui, c'est du courage. Oui. Mais bien sûr.
Oui. Et elle a fait, elle, évoluer le personnage.
Mais c'est elle qui l'interprète. Ouais. Donc, bien évidemment, si vous voulez, on en a parlé. Mais elle a fait évoluer le personnage aussi bien au niveau de son maquillage. Parce qu'il y a des. Enfin, je ne veux pas raconter.
Non,
il faut
pas
que les gens aient envie de voir. Mais c'est très intéressant comme elle interprète cette femme qui s'appelle Isabelle, d'ailleurs.
Elle s'appelle Isabelle, oui. Je me suis posé la question.
Elle s'appelait Isabelle dans le livre. On a hésité, puis on l'a gardée, oui.
Et la rencontre entre. La première rencontre entre Corinne Maziero et.
Mais il y en avait déjà une, parce que quand Isabelle a fait Carole Mathieu, ça s'appelait Carole Mathieu sur Arte. Oui. Elle avait une scène avec Corinne Maziero, où elles s'aiment beaucoup toutes les deux.
Donc elles se connaissaient.
Oui.
Et elles ont tourné en confiance. Et
mais absolument. Et Isabelle trouve Corinne incroyable. Et Corinne adore Isabelle. Donc voilà.
Mais grande comédienne, hein, Isabelle Adjani. On le voit ce soir. On voit la puissance de son personnage.
Vous avez vu sa beauté en plus.
Ouais, elle est magnifique.
Elle est magnifique. Son regard, ses yeux qu'elle a.
Allez,
elle est bouleversante.
On se retrouve dans un instant avec José Dayan. On parle de Capitaine Marlowe. À tout de suite. Ce sera diffusé ce soir sur France 3, inédit, avec Isabelle Adjani, Ne plus mourir jamais. Et vous retrouverez également Thibault de Montalembert, entre autres.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, ensemble jusqu'à midi, 10h-11h, les médias, l'événement aujourd'hui, c'est la diffusion d'un inédit de Capitaine Marlowe ce soir sur France 3 à 21h avec Isabelle Adjani. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue à la télévision, on évoquait pendant la publicité, effectivement, elle a participé à 10%, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de rare, qu'on voit peu déjà. Elle a joué beaucoup au théâtre, des films, et la télévision, c'était un exercice différent. Et vous avez réussi à convaincre quand même un grand nombre d'acteurs, vous, de vous rejoindre, José Dayan.
Eh bien oui, ça me touche beaucoup, parce que moi, si je fais ce métier, c'est parce que j'aime le rapport aux acteurs. J'aime surtout, avec les grands acteurs que j'ai eu la chance d'approcher, cette notion de mystère qui les entoure, et c'est vrai. Il y a quelque chose qui reste indicible dans l'émotion qu'ils peuvent donner, dans la façon qu'ils ont d'aborder certaines séquences, certains rôles. Et il y a quelque chose de leur background qui est, pour moi, bouleversant, oui, c'est vrai.
Oui. Capitaine Marlowe, vous en tournez combien par an ?
J'en tourne pas beaucoup. On en tourne 4 par an, parce qu'on veut pas en tourner plus. Ni nous, enfin, nous, Passion Film et moi, comme metteur en scène, ni Corinne Maziero, parce que en vérité, on a envie que ce soit un peu à chaque fois un événement. Vous voyez, il y en a deux maintenant, il va y avoir quelques rediffs. À la rentrée, il va y en avoir encore deux autres, parce que tout de suite après...
Il faut créer l'envie, quoi, garder
oui,
le...
Oui, et pour nous aussi.
Ouais,
et pour nous aussi. Oui.
Oui, alors Capitaine Marlowe, ça repose, vous le disiez, sur Corinne Maziero, et donc c'est quand même une personnalité, un rôle complètement à part dans la télévision. Et alors, j'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, qu'elle affirme de plus en plus des positions, y compris même des positions politiques. J'ai noté plusieurs choses dans celui qui va être diffusé ce soir. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a confondu sa gauche et sa droite, et Capitaine Marlowe dit oui, c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, surtout en politique. À l'hôpital, le temps, c'est de l'argent. Elle dit ah oui, d'accord, un peu comme une infirmière en burn-out. Donc. Et puis, un peu plus loin, elle dit, vous n'avez rien raté, les riches, ils sont toujours plus riches, et les pauvres, ils sont toujours plus pauvres. Donc, ça,
mais là,
c'est...
vous voyez, de ce côté-là, ce que vous êtes en train de citer, c'est plutôt soft pour Corinne.
Oui,
ce que je veux dire. C'est plutôt, en fait, entre guillemets, des banalités que tout le monde pourrait dire.
J'ai pris des points plus politiques.
Quelquefois, c'est plus raide. Ouais. Voilà.
Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même atypique,
c'est
la télé, c'est elle.
Ah oui,
ça,
c'est elle.
C'est elle, elle rajoute.
C'est elle.
Est facile à diriger ou pas, Corinne Mazero?
Ah ben, elle est très facile à diriger, mais quand elle a décidé de dire quelque chose sur la politique...
Bah donc, elle n'est pas si facile que ça.
Ah non, je parle de l'actrice.
Oui, je
l'actrice,
parle de l'actrice,
c'est formidable. Oui. Bon, après, quand elle a décidé de dire quelque chose, il faut dealer un peu avec elle, oui, voilà.
Parce qu'en fait, je sais pas, il y a une implication importante de sa part dans les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez de...
Ah, moi, je dis que je préfère les cachemires jaunes, voilà.
Les cachemires jaunes.
Voilà, oui.
Oui, c'est une autre...
Ça lui a plu comme réponse?
Ah oui, parce qu'elle a de l'humour, hein.
Oui, elle a de l'humour.
J'accepte ses... J'accepte ses opinions, elle peut accepter...
Bah, vous lui laissez une liberté incroyable
dans le sens de la dérision.
Dans le téléfilm.
Oui,
elle a de la liberté. Comment vous comprenez le succès qu'elle a rencontré?
C'est-à-dire elle a rencontré pratiquement dès le début du film qui servait un peu de...
Oui, de pilote.
Enfin, de pilote sans savoir. Qui était une mini-série sur la 3 qui s'appelait Entre vent et marée avec Nicole Garcia et avec Muriel Robin. Elle jouait le rôle d'une gendarme. Elle n'avait pas du tout le rôle principal. Et vraiment, pour la première fois de ma vie, précisément parce qu'elle n'était pas très connue... Après la diffusion de ces deux épisodes, moi, des gens qui me connaissaient et d'autres qui ne me connaissaient pas, mais qui me connaissaient physiquement, m'arrêtaient dans la rue pour me demander qui était cette actrice qui faisait la gendarme. Oui. Elle a quelque chose, mais c'est vrai qu'elle est très particulière.
Oui.
Elle a d'abord, c'est une très bonne actrice. Elle a un physique reconnaissable maintenant. Elle a beaucoup d'humour. Mmh. Curieusement, elle a beaucoup de culture. Mmh. Alors qu'elle joue un peu les analphabètes, mais vraiment avec au second degré. Elle sait être sobre dans l'émotion, elle a beaucoup d'énergie, et puis je crois surtout qu'elle a, comment dire, c'est un exutoire formidable pour le public.
Ouais.
Elle dit ce qu'ils pensent et ce qu'ils n'ont pas envie de dire, qu'ils n'osent pas dire.
Et c'est une série particulière, une série policière particulière, parce qu'on n'est pas dans la déprime, on n'est pas dans le glauque, on n'est pas dans le sanglant. C'est quelque chose.
On est dans l'humain
complètement. Alors, ce soir encore.
Ah ben encore plus avec Isabelle.
Plus avec Isabelle Adjani. On va encore une fois, faut pas révéler, mais vraiment il y a une intrigue qui est très forte et le lien entre les deux aussi est très fort.
Ça passe très bien leur relation.
Ouais, très très bien. Non, c'est sûr. Et quel regard vous portez-vous sur la télé aujourd'hui, vous qui avez qui œuvrait depuis longtemps, vous la regardez, vous êtes...
Mais je la regarde, oui, quand j'ai le temps, parce qu'évidemment...
Bah oui, vous tournez beaucoup.
Je travaille beaucoup, je tourne beaucoup, j'ai des rendez-vous, des dîners, tout ça. Mais, oui, moi, ça m'intéresse, la télévision. Je trouve que c'est un média vraiment assez fascinant. Pas tout le temps, mais... Oui.
Mais sur la fiction,
j'aime beaucoup, par exemple, toutes les séries. Il y a une série que j'adore, qui, je viens de voir, qui va s'arrêter à la 7e saison. C'est Elementary, par exemple, qui passait sur M6. Enfin,
C'est ça. Les chiffres.
Mais maintenant, qui repasse sur... Série Club, enfin bon, peu importe, et qui est formidable. Mm. C'est précisément une façon d'aborder Sherlock Holmes et Watson, très originale, qui m'a beaucoup plu. Ben, j'aime beaucoup je préfère les séries américaines en général.
Ouais.
Mais pour revenir sur la télévision, comme disait Valérie, vous pensez que le service public aujourd'hui est à la hauteur? Il y a beaucoup de projets de réforme qui sont dans les tuyaux. Est-ce que on peut retrouver vous avez fait quand même des grands je pense à Monte Cristo. Est-ce qu'il y a encore la place pour ces grands films?
Je pense mais je peux pas dire parce que
on sent qu'il y a quelque chose peut-être dans les tuyaux là, non?
Je pense qu'on va revenir un peu aux alentours de disons de Monte Cristo si on veut.
Ouais.
Et vous êtes. Parce qu'il y a quand même. Vous préparez quelque chose, si je comprends.
Oui.
Mais on a eu Victor Hugo qui a plutôt bien fonctionné.
Oui,
donc,
mais Victor Hugo, j'ai l'impression que c'était une fiction.
Oui, c'était
mi-fiction, mi-documentaire.
C'était sur une période courte.
C'était très biographique.
1848.
Le projet qui est le nôtre, pour l'instant, ce sera vraiment une fiction, oui.
Une fiction
historique.
Ouais. Vous n'arrêtez jamais, José Dayan.
Non.
J'ai regardé.
Mais vous non plus.
Non plus. Mais
voilà.
69 ans de carrière, 43 films, 14 séries. Ça, c'est quand on tape votre nom, c'est ce qui ressort. C'est...
69 ans de carrière, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Je suis doué. J'ai commencé très tôt, mais non, pas à 4 ans.
J'ai vu que vous aviez grandi à Alger. Votre père était fondateur de la télévision.
Il a créé la télévision d'Alger, oui.
Et votre grand-mère était propriétaire d'une salle, de deux salles de cinéma.
Oui. Donc vous aviez grand-mère napolitaine, oui.
Vous aviez ça dans le sang?
Ah oui.
L'image?
Moi, j'ai décidé, quand j'avais 7 ans, que je ferais des films.
Ah oui.
Ah, puis, oui, puis je voulais rien faire d'autre.
Et ça s'est concrétisé comment après voilà. vous y êtes
Je suis un peu obsessionnelle, donc quand j'ai une idée dans la tête, je la conserve.
Capitaine Marlowe, vous avez dit 4 épisodes par an.
Oui.
Combien de temps de tournage?
Je tourne très vite, 16 jours par épisode. Oh là là. On est film de 90 minutes.
Ah oui, effectivement, c'est hyper rapide.
Oui.
Vous savez déjà les prochains...
Celui-là, je viens d'en terminer avec Joe Star et Marie Lahontz. Et puis là, la semaine prochaine, j'en commence un avec Cadmerade.
Ouais. Voilà. Vous êtes sollicité ou c'est vous qui les sollicitez ou les deux?
Les deux.
Les deux.
Et là, après, je vais en faire un autre un peu plus tard avec Catherine Fro. Voilà, pour l'instant. Plus mon projet historique.
Oui,
dont
vous reviendrez nous.
Et autre chose que
vous
reviendrez.
Vous viendrez nous en reparler.
Ici.
Oui,
voilà, famille. Isabelle Adjani, vous disiez qu'elle peut-être, elle serait dans le projet historique ou c'est autre chose? Dans le projet historique.
Bon, on est déjà... autour d'elle.
On a réussi à savoir quelques petites choses.
Mais vous avez rien
en tout cas, ce soir, vraiment à ne pas manquer cet épisode inédit avec Isabelle Adjani qui est formidable, bouleversante, étonnante parce qu'on est frappé dès les premières images. Là, on ne révèle pas trop de la voir. Handicapé, pouvant à peine parler, et puis formidable.
Alors,
merci.
Peut-être une seconde. Remercier d'abord de ce que vous dites de cet épisode, ça me touche beaucoup parce qu'en plus,
les
retrouvailles comme ça, professionnelles avec Isabelle, sont très importantes pour moi. Mais la semaine prochaine, il y a quand même un film avec Jeanne Balibar, Benjamin Biolay et la chanteuse Camille.
Et qui est dans Marlowe.
Les trois guests de Marlowe.
Incroyable.
Le
9 avril.
La semaine d'après, quoi.
La semaine d'après. Voilà. Donc, deux inédits. On est gâtés, cette semaine. Ah oui, ça doit être intéressant, Biolay.
Si vous voulez, on vous enverra un DVD.
Oui,
plaisir.
On va attendre. Alors, regardez, moi, j'aime bien regarder devant ma télé. Biolay, Balibar.
Et la chanteuse Camille.
Et Camille.
C'est très intéressant.
C'est intéressant.
Oui, c'est un casting très amusant.
Quelques mots sur le tournage, ça s'est...
Très bien passé. Vous savez, Balibar, j'ai fait faire son premier film. Donc, on se connaît depuis...
Et Camille, la chanteuse Camille, elle jouait
elle a joué dans un film d'Alzheimer. Elle faisait la fille de Catherine Deneuve.
Dans un film, je me souvenais plus de ça.
Comment s'appelle ce metteur en scène formidable?
Et c'est vous qui pensez ou pas?
Oui,
c'est vous
moi,
qui dites je veux cette.
C'est moi qui fais mes castings.
C'est vous qui faites votre casting de rôles principaux et là les trois ensemble, vous êtes dit il y a un truc qui peut fonctionner. Et Benjamin Biolay, grand comédien aussi.
Ah oui, merveilleux, merveilleux,
avec une palette
et très talentueux, avec une très belle présence.
Bon, ben on va suivre tout ça. Donc aujourd'hui, Isabelle Adjani, la semaine prochaine Jeanne Balibar, la chanteuse Camille et Benjamin Biolay, ce sera la semaine prochaine. Oui, oui, absolument. Et puis, on attend le grand projet historique. Merci beaucoup, José Dayan, d'être passé par Sud Radio. On se retrouve, nous, dans un instant.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour le 10h midi. On va parler d'un documentaire qui va être diffusé ce soir dans le cadre de la case Infrarouge, présentée par Marie Drucker. Michael Prazan, bonjour. Vous êtes réalisateur, le réalisateur de ce documentaire, j'ai envie de dire même de cette enquête consacrée au goulag. Et alors, goulag avec un S, parce qu'on parle du goulag, sauf qu'on apprend dans votre documentaire qu'il y a des goulags. Alors, je veux que vous nous expliquiez, c'est vraiment je dis une enquête, parce que vous ne suivez pas la forme habituelle du documentaire. Il y a des allers-retours, il y a des images d'archives incroyables, et puis surtout, il y a cette jeune femme qui est une descendante d'une famille qui a été envoyée au goulag, qui est avec vous au long de ce documentaire. Racontez-nous le point de départ de ce documentaire.
Le point de départ, en réalité, c'est ma rencontre avec elle. C'est une jeune femme de 35 ans qui s'appelle Assia Kovrigina, que j'ai rencontrée en 2011 à l'occasion d'un colloque à Kiev sur le massacre de Babi Yar, qui était un massacre perpétré par la SS à Kiev, où 33 771 personnes ont été tuées en deux jours.
Ouais.
Et on s'est liés d'amitié assez rapidement. Elle m'a raconté son histoire, que j'ai trouvée absolument passionnante. Et puis pendant toutes les années où on s'est fréquenté, elle m'a relancé sur le sujet. Toi qui as fait un film sur les massacres de masse nazis, les Einsatzgruppen, etc., tu ne peux pas ne pas faire un film sur le goulag. C'est vrai que ça m'a perturbé pendant longtemps. Et puis un jour, elle m'a fait lire Varlam Shalamov, qui est le grand écrivain de cette région-là en particulier. Le recueil qui a été publié en France et qui rassemble ses œuvres s'appelle Les Récits de la Colima. Et donc la Colima, c'est la route qu'on a faite parce que initialement, quand l'idée du film vient, notamment en discutant avec un chargé de programme de France Télévisions qui s'appelle Emmanuel Mijot, on s'est dit on va faire un film qui sera à la fois un film d'histoire et en même temps presque un film de découverte parce que les lieux sont tellement exceptionnels, tellement aussi inaccessibles qu'ils témoignent aussi quand même des conditions de vie terrifiantes.
On a du mal à imaginer et on le perçoit justement un petit peu dans votre film.
Ouais, sur cette route perdue de la Colima où il fait... moins 50 à moins 100, à moins 60, avec des images en drone assez sublimes. Et il faut raconter que ce sont la route des ossements.
Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Alors ici, elle est plus connue sous le nom de la route de la Colima, mais les gens... qui sont très peu nombreux, c'est quand même une région qui est la plus désertique du monde. Il y a qu'une seule route, qui est d'ailleurs extraordinairement peu fréquentée, et qui relie à 2000 km de distance deux villes ou deux ersatz de villes. Yakoutsk, qui est quand même déjà peut-être une grande ville, et puis Magadan, une toute petite ville, qui est vraiment la ville des Zèques, pour les Zèques.
Les ex, ce sont ceux qui, c'est exactement. Comme ça qu'on appelle ceux qui ont été déportés, on peut dire détenus, déportés au goulag, Rémi.
Oui, alors c'est aussi un film historique qui retrace la création des goulags et on découvre que les premiers goulags, ils ont été créés avant même quasiment les camps d'extermination nazis avec des techniques qui sont les mêmes.
Alors. D'une part, la révolution bolchevique va poursuivre un système qui préexiste, puisque les bagnes tsaristes, qui sont déjà installés en Sibérie, existent depuis le XVIIIe siècle. Donc, dès 1918, dès ce fameux télégramme de Lénine à la ville de Pensa, que je montre dans le film, c'est l'acte de baptême des goulags qui poursuivent ces bagnes tsaristes, mais... d'une ampleur complètement inattendue et inédite, et qui vont coloniser le territoire de l'Union soviétique. Mais c'est vrai, et ça c'est un scoop du film, parce que c'est quelque chose qui a été découvert ou redécouvert il y a très très peu de temps. Les premiers camps naissent au cœur même de la ville de Moscou, immédiatement après la révolution bolchevique, dans des espaces consacrés à la religion.
Dans des monastères. Où il y a eu des exécutions.
Exactement, il y a eu des exécutions. Ouais. Et c'était au cœur de la ville, et c'était au vu et au su de la population. Parce qu'à un moment, Staline a voulu faire des grands travaux à Moscou, et puis on a utilisé cette main-d'œuvre captive, gratuite. Et donc, on voyait les zèques au cœur de la ville travailler... sur ces grands travaux.
Vous racontez cet hôtel qui a été construit justement par les prisonniers.
C'est plus qu'un hôtel, c'est l'université de Moscou et c'est l'un des 7 gratte-ciels staliniens parce que Staline avait un peu la folie des grandeurs comme c'est le cas des dictateurs et il voulait que Moscou soit plus ou moins en concurrence avec New York. Donc il voulait créer aussi lui-même des gratte-ciels qui soient plus hauts, plus beaux que les gratte-ciels new-yorkais.
En 1919, il y avait une vingtaine de camps. En 1920, une centaine. Et à la mort de Staline, 1 million de zèques ont été amnistiés. On imagine mal l'ampleur du goulag. Ça reste quelque chose d'assez flou. On les envoyait au goulag, mais la réalité qu'on perçoit dans le documentaire est absolument terrifiante. Et cet endroit qui est le plus froid du monde témoigne de ces conditions abominables dans lesquelles ils ont été détenus.
C'est pour ça qu'il fallait y aller, parce que ces lieux-là racontent aussi quelque chose de très important sur la réalité du goulag, sur les conditions de vie, ou plutôt les conditions presque de non-vie. Je voulais m'intéresser aux micro-histoires, raconter des histoires individuelles, et notamment et en premier lieu l'histoire du grand-père d'Assia,
qui
était journaliste à la Pravda, qui a été arrêté deux fois. Et d'ailleurs, son incarcération n'a pas mis fin non plus à ses convictions communistes, puisque à peine ressorti, reprend sa carte du Parti communiste. Ces histoires individuelles, elles permettent, je crois, quand même de mieux comprendre la réalité d'une personne face à des chiffres aussi astronomiques que ceux que vous venez de citer, qui se comptent en dizaines de millions de personnes.
Il y a un passage, je trouve, on comprend aussi, vous expliquez que dans les zones d'Europe centrale occupées par l'URSS, l'ex-URSS, la tragédie prend deux visages, la Shoah et le Goulag. En fait, vous citez le cas de cette famille, la famille Epstein, dont la majorité a été tuée par les commandos, les Einsatzkommandos dont vous avez... déjà longuement parlé, pro-nazi en Lettonie, et avec les 2731 juifs de la ville, tous tués par balles, et le père, lui, il fait partie des 23 000 Lettons déportés au goulag. Enfin, c'est donc...
Et il va mourir 5 mois après sa femme et ses enfants, sans savoir qu'ils ont été tués sur cette plage de Shkede à Liepaja en Lettonie.
C'est bouleversant, vraiment, vous avez des témoignages qui sont poignants. Il y a Antonia aussi, qui n'a jamais quitté la ville... dans laquelle elle est arrivée à 19 ans. C'est des témoins qui sont très très forts.
Oui, et ils sont d'autant plus forts qu'ils se font rares. Hein. On a eu beaucoup de mal à en trouver aujourd'hui. Ils disparaissent les uns après les autres. Donc c'est une... Le témoignage et ces témoignages en particulier sont une matière à la fois extrêmement précieuse et extrêmement périssable. Ouais. Et donc je suis très heureux.
D'où la nécessité de les faire témoigner, Rémi.
Et vous en parlez assez librement en Russie. Je me demandais, est-ce que c'est facile? C'est un sujet qu'on peut aborder avec les gens. J'étais presque surpris comme spectateur.
Vous n'êtes pas le seul et ça a été pour moi aussi une surprise. Et c'est vrai qu'on nous entretient ici un peu dans l'idée que c'est un sujet glacifié, tabou. Et en réalité, je me rends compte qu'il est beaucoup plus tabou ici que là-bas. Il y a eu un retour de mémoire. Alors, il y a eu déjà une première amorce dès la chute de l'Union soviétique. Il y a eu des émissions de télé où, pour la première fois, les gens s'exprimaient sur le goulag. Et puis après, il y a eu une très longue chape de plomb qui ont plusieurs causes, la nature du pouvoir russe aussi. Et puis, cette mémoire, elle est devenue, avec la déclassification des archives, avec un certain nombre de faits, et surtout le fait qu'on a cité les chiffres. Ouais. Il y a tellement de familles soviétiques russes qui ont été impactées par cette histoire-là que réprimer cette mémoire était devenu impossible. Donc le pouvoir, très habilement, l'a accompagné. Mmh. Et depuis 2-3 ans, il y a des mémoriaux. Il y a aujourd'hui un très joli musée national du Goulag.
La Russie va jusqu'à revenir sur son antisémitisme d'État ?
Alors, elle ne revient pas sur tout. Et la grande habileté et le grand cynisme aussi, peut-être, du pouvoir russe, c'est d'intégrer cette histoire-là parce qu'on ne peut plus l'étouffer au grand roman national. Mais enfin, évidemment, avec des accommodements, on ne raconte pas tout non plus.
Mais quand même, sur
la question du cage, sur la question que vous avez soulevée, justement, eh bien, au cimetière d'Onskoï, que j'ai filmé également, au cœur de Moscou, il y a des mémoriaux pour le cage. Il y a quand même eu...
Dans ce que vous montrez, vous montrez l'image du cage avec les tombes, et juste à côté, les tombes de leurs bourreaux. Alors,
c'est ça qui est plus intéressant. On rend hommage, on réhabilite les victimes, et en même temps, on continue d'honorer les bourreaux.
Qui sont juste à côté. Pour prolonger la question de Rémi, vous l'avez tourné à la Wanegan, vous avez les autorisations...
On ne sait pas ce que c'est Wanegan, vous êtes gentil.
Vous avez tourné sans autorisation, ou vous l'avez fait avec les autorisations avec la Russie, ou pas du tout?
Moi, au début, quand on sait qu'on va aller tourner en Russie, je suis un peu inquiet, et je ne sais pas exactement ce qu'il en est de la mémoire du goulag, et comment le sujet va être reçu, surtout par une équipe extérieure d'un pays étranger, etc. Donc on se pose la question, est-ce qu'on doit mentir? Est-ce qu'on doit dire qu'on va faire un film de découverte, etc. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, ça c'est le pire risque à prendre, et ça risque vraiment de tout capoter. Il faut dire la vérité, et à partir de là, je dois dire qu'on n'a eu aucun problème.
Ah, vous avez eu toutes les autorisations pour
tourner. Vous êtes resté combien de temps pour tourner là-bas? Combien de tournages ça...
On a commencé par une semaine à Moscou, parce que c'était quand même un lieu incontournable. Ouais. Et puis la Kolyma, cette route qui fait 2000 km, taillée dans le givre, sur un territoire grand comme 4 fois la France... quasiment totalement désertique, ça a été un mois de traversée, et il fallait quand même qu'on fasse des kilomètres par jour pour arriver à destination. Enfin, tout ça était très chronométré, très compliqué.
Il faut dire pour nos éditeurs qui vont sûrement regarder ce soir, c'est qu'il y a des images d'archives
incroyables, inédites, vraiment.
On voit ces camps qui sont pas sur pilotis, mais ces camps qui bougent parce qu'ils arrivaient à faire bouger les camps par les prisonniers. Ces images d'archives, ces images ont été accessibles, comment elles viennent d'où ces images?
Écoutez, alors ça, ce que vous dites, c'est les îles Solovki, et d'ailleurs la figure de Naftali Frenkel, l'ancien prisonnier qui va devenir le gardien de camp, et qui va en fait théoriser tout ce qu'on va connaître ensuite du goulag, les rations, le nombre de couchettes, le travail forcé. Donc c'est vraiment là, le laboratoire dans ces îles Solovki, que va naître véritablement le goulag tel qu'on va le connaître à partir des années 30. Ces images, elles ont été filmées par la propagande. Ouais. Et tout notre travail de documentariste, quand on récupère ces images, c'est de travestir ou de déconstruire le discours propagandiste de ces images.
Il faut savoir que le dernier camp a fermé en 1988, c'est ça ?
Absolument, le camp dans l'Oural de Perm 36. Ouais,
mais on voit que, en tout cas, ces camps, et c'est ce qui ressort de votre documentaire, a marqué profondément... la Russie, les Russes, tout ce peuple, ça fait partie de de leur histoire et c'est indélébile.
C'est indélébile et ça a marqué jusqu'à la géographie. Encore une fois, c'était ville stalinienne et c'est ça aussi. Moi, c'est ce qui m'a le plus passionné, si vous voulez. C'est qu'on connaît le goulag, d'où le S de mon titre, comme instrument d'une répression et d'ailleurs d'une répression beaucoup plus large. Vous l'avez cité avec des massacres de masse. Mais l'aspect le plus fondamental, en réalité, c'est une entreprise coloniale. Mmh. Il faut savoir que dans ces territoires aux marges de l'Empire, qui sont parfaitement invivables, eh bien, il n'y avait personne pour exploiter des richesses invraisemblables. Il y avait les plus grandes ressources d'or et d'étain au monde dans cette région qu'on traverse. D'eau, dans d'autres régions, c'était les hydrocarbures ou autres. Et il fallait des gens pour les exploiter. Donc, on a créé ces goulags, en réalité, pour les exploiter, avec une main-d'œuvre servile, qui était en réalité des esclaves. Et après, une fois leur temps fini, on les assignait à résidence pour créer des colonies de peuplement et donc des réservoirs de main-d'œuvre sur place. Et c'est comme ça qu'une ville comme Magadan est née.
C'est à ne pas manquer vraiment ce soir dans le cadre donc du magazine Infrarouge. Ce soir, 23h10, évidemment, il y a le replay. Et je vous encourage vraiment à le voir parce que c'est déjà par la forme, c'est une sorte de... Oui, vous nous prenez par la main et vous nous emmenez avec vous finalement à la découverte, si je peux employer ce mot, pour le goulag. En tout cas, c'est très très fort et je recommande... Tout à fait. Merci Mickaël Prazan d'être venu avec nous. 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors, c'est un tout autre univers cette fois-ci sur TFX. Mais la télévision est multiple, heureusement.
Hier, c'est l'événement. Troisième saison de 10 couples parfaits a démarré hier sur TFX. Des femmes et des hommes célibataires qui ont été choisis pour former des couples par la Love Machine. Et à heureux de retrouver leur binôme. C'est à 17h50 sur TFX. Alors, cette nouvelle saison est toujours présentée par Elsa Fayer. Alors, on lui a téléphoné et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre de se brancher sur TFX.
Des femmes et des hommes célibataires ont été choisis pour former 10 couples parfaits. Un seul objectif, identifier leur âme sœur et composer les 10 nouveaux couples parfaits malgré de nombreuses possibilités. Mais attention, cette année, s'il y a bien 10 couples parfaits à retrouver, les célibataires ne seront pas 20, mais 21 avec 10 filles et 11 garçons. Alors pour gagner la cagnotte finale, les candidats devront identifier les 10 couples parfaits parmi lesquels se trouve un trio. C'est un jeu de rencontre ambitieux avec à la clé 200 000 euros à se partager en cas de victoire si tout le monde arrive à trouver son âme sœur.
Et ben voilà. Donc, à ne pas manquer ce soir sur TFX.
On va essayer de former des couples.
Éventuellement. Voilà, éventuellement. Rémi, à la télévision ce soir.
On a la série L'Arme Fatale sur TF1, match de foot, demi-finale de Coupe de France, Lyon-Rennes sur France 2, Capitaine Marlowe sur France 3, ça c'est
cartonné.
Le blockbuster.
Moi je dis qu'ils vont
faire
7 millions.
Entre le foot et Capitaine Marlowe, ça va jouer quand même.
Moi je dis 7 millions pour Capitaine Marlowe.
Et puis Un Avion Sans Aile, la série dont nous avons parlé avec Bruno Solo, sur
M6.
Sur M6, donc...
3, 2... Et TF1, il y a quoi?
Et TF1, L'Arme Fatale, donc moi je pense
nouvelle
qu'on
version,
peut avoir... France 3 et devant France 2 et puis TF1 M6, enfin voilà, tout ça va être assez serré. Et puis
bon, allez, moi je dis le foot pour changer de vous comme
et
ça.
Du coup ça fera pas mal de monde pour regarder Infrarouge après le foot.
Deux remarques. Cédric nous dit à la one again n'est pas une locution française, stop aux anglicismes nuisibles. Merci Cédric. Et Fredo nous dit le projet historique semble de José Dayan semble être un film sur Diane de Poitiers.
Oui, Diane de Poitiers, absolument. Voilà. On l'a appris aujourd'hui, il a tout à fait
absolument.
Raison.
Merci à vous, merci beaucoup.
Excusez-moi,
on se retrouve
Cédric.
Dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.